Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Samaritaine. C'est pas le grand magasin de Paris, hein. Non, non, enfin, d'ailleurs, il n'existe plus. C'est cette dame qui habite Samarie, enfin, qui habite pas Samarie, qui habite Sichem, et que Jésus a rencontrée. Est-ce que c'est un passage qu'on lit, qu'on a l'habitude de lire? Alors, c'est dans la suite des deux prédications précédentes, qui s'appellent Juda et Éphraïm. Alors, il faut savoir que Sichem se trouve en Éphraïm, c'est-à-dire c'est le royaume du nord. Et donc, on va commencer à lire, et je m'arrêterai à la moitié du texte pour expliquer un peu plus ce que l'on lit. Donc, c'est dans Jean 4, au verset 3. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, en fait c'est Sichem, près du champ de Jacob que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, c'est-à-dire environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, Comment? Toi qui es judéen, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Les judéens, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et je m'arrête là. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y avait pas de relation entre les Judéens, c'est-à-dire les Juifs, et les Samaritains? Vas-y, tu peux. Donc les gens de Samarie sont des peuples extérieurs qui sont venus prendre la place des 10 tribus d'Israël qui ont été déportées en Assyrie. C'est en partie exact. En fait, l'histoire remonte en moins 722, où le roi d'Assyrie, qui s'appelait Sargon II, a vaincu Samarie et a déporté une partie de la population. Il ne faut pas croire que ce soit aussi bien pour Babylone que pour la Syrie, qu'ils ont emmené tout le monde. Ils ont juste emmené l'élite, c'est-à-dire les principaux, enfin ceux qui peuvent apporter des choses à la Syrie. Donc ils ont apporté les prêtres, l'élite, les notables, les gens riches, et ils ont laissé sur place les paysans et les gens pauvres. C'est pareil, c'est écrit comme ça aussi pour Jérusalem. Quand Jérusalem a été détruite, ils ont déporté la tribu de Juda et Benjamin, ils ont emmené les gens riches, à commencer par Daniel, et ils ont laissé sur place ce qu'ils appellent la populace. Il n'y a rien de péjoratif, c'est écrit comme ça dans la Bible. La populace, c'est donc les gens sans intérêt économique. C'est quelques paysans, quelques ouvriers, voilà. Donc, toutes les tribus du Nord n'ont pas été, tous les habitants de la tribu du Nord n'ont pas été déportés. Et on le voit ça dans 2 Rois 17, qu'on va lire. 2 Rois 17 à partir du verset 24. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kuta, de Hava, de Hamath et de Sepharvaïm. Et les fit habiter dans les villes de Samarie à la place des Israélites. Ils prirent possession de Samarie et arrivèrent dans les villes. Lorsqu'ils commencèrent à habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les dévoraient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as déportées et que tu as fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la religion du Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la religion du dieu du pays. Alors le roi d'Assyrie donna cet ordre. Faites aller là-bas l'un des sacrificateurs que vous avez déporté de là, qu'il aille y habiter et qu'il leur enseigne la religion du dieu du pays. L'un des sacrificateurs qui avait été déporté de Samarie vint habiter à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. C'est un peu étonnant comme texte, parce qu'on croit que Dieu est lié au pays, à un endroit. Voilà, il y a le Dieu du pays. Il y a dans d'autres passages de la Bible, il y a le Dieu des plaines, le Dieu des montagnes. Là, les populations qui arrivent sont des populations païennes et ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël, ils ne le connaissent pas du tout. Et il est dit quelque part que la terre d'Israël est un pays qui dévore ses habitants. C'est écrit quelque part, je ne sais plus dans quel passage. Et là, effectivement, c'est un pays qui dévore ses habitants, puisque les lions ont commencé à ne pas accepter les peuples païens qui arrivaient sur ce pays. Donc, le roi d'Assyrie, qui est quand même aussi un païen, dit bah, qu'à Saint-Tienne, qu'on ramène un sacrificateur d'Israël et qu'ils enseignent à ces gens-là la loi, la Torah, les sacrifices, enfin, comment servir le Dieu d'Israël. Alors, je m'en suis où ? Voilà. Un des sacrificateurs qui avait été déporté donc revient à Bethel, mais, il y a un mais, au verset 29, les nations firent chacune leur dieu. Elles les placèrent dans les maisons, des hauts lieux bâtis par les Samaritains, dans les villes où chacune des nations habitait. Les gens de Babylone firent Soukhot Benot, les gens de Kout firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, les gens de Hava firent Nibaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs fils par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Tsepharnaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils instituèrent pour eux des sacrificateurs de hauts lieux pris un peu partout. Ces sacrificateurs étaient en activité pour eux dans les maisons et les hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel. Notez, ils craignaient l'Éternel. Mais, en même temps, ils rendaient un culte à leur propre Dieu d'après la coutume des nations dont on les avait déportés, d'où on les avait déportés. Ils pratiquent jusqu'à aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel, ils ne pratiquent ni les prescriptions, ni leurs coutumes, ni la loi, ni les commandements donnés par l'Éternel au fils de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait conclu une alliance avec eux et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez pas d'autres dieux, vous ne vous prosternerez pas devant eux, vous ne prendrez pas de culte, ne rendrez pas de culte, ne vous ferez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et un bras tendu. C'est devant lui que vous vous prosternerez et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique mes prescriptions, mes ordonnances, les lois, la loi et ses commandements qu'il a écrits pour vous. Vous ne craindrez pas d'autres dieux, vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai conclue avec vous et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Mais craignez l'Éternel, votre Dieu, qui vous délivrera de la main de vos ennemis. Ils ne l'ont pas obéi, ils pratiquent leur première coutume. Ces nations, craignez l'Éternel et en même temps, rendez un culte à leur statue. Leurs fils et les fils de leurs fils agissent ainsi jusqu'à aujourd'hui, comme leurs pères ont agi. Voilà ce que c'est l'origine des Samaritains. Alors, on va retourner. Alors, les Samaritains, ce ne sont pas que des païens, puisqu'ils ont été quand même enseignés dans la loi de Moïse. Et comme je vous ai dit, une partie des Samaritains étaient des anciens israélites. Il y avait un mélange des deux, d'un peuple qui était là avant et d'un peuple qui est arrivé, se sont mélangés Et c'est pour ça qu'il y avait effectivement un syncrétisme, on va dire, religieux, où on mélangeait paganisme et aussi la loi de Moïse. C'est le signe d'Éphraïm, le mélange de paganisme et aussi de judaïsme, enfin de judaïsme, on ne va pas appeler ça comme ça, de la loi israélite. Alors, à l'époque de Jésus, comment ça se passait? Il y a un autre passage que vous pouvez lire dans Esdras 4, je vous donne le passage. On peut le lire d'ailleurs. C'est après Chronique, hein, Esdras. Esdras 4. Les adversaires, ou dans d'autres traductions, les ennemis des Judéens et de Benjamin, de Juda et de Benjamin, apprirent que les anciens déportés bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent : Nous habitons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Etzar Edom, le roi d'Assyrie qui nous a fait monter ici. Donc c'est bien les peuples que le roi d'Assyrie a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous, mais à nous de bâtir une maison pour notre Dieu. Nous bâtirons tout seuls pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, alors le roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Donc on voit que ces gens-là, ce n'est pas des potes. Pourtant, ils se considèrent comme judéens, comme juifs, puisqu'ils disent bah, on a appris votre Dieu, à connaître votre Dieu, donc vous construisez un temple à l'Éternel, on veut vous aider. Ben non. Tu ne nous aides pas. Nous, on est judéens, vous êtes israélites. Il faut savoir qu'à l'époque, alors quelle est la différence entre les judéens et les samaritains? Elle est toute simple. Les judéens pensent que c'est le mont du temple, mont Sion et le mont Moria à Jérusalem, qui est le lieu où il faut adorer le Seigneur. C'est la montagne sacrée, entre guillemets. Les Samaritains pensent que c'est le mont Garizim qui est à côté de Sichem. Il faut savoir que Sichem est dans une vallée. Quand je dis mont, ce n'est pas des grandes montagnes, hein, c'est des collines. Il y a une colline qui s'appelle le mont Garizim et une autre colline de l'autre côté de la vallée qui s'appelle le mont Ebal. Si vous regardez dans Deutéronome, je crois, c'est le peuple, quand il est arrivé dans le pays, les tribus se sont séparées, une partie sur le mont Garizim, une partie sur le mont Ebal. Sur le mont Garizim, ils ont invoqué les bénédictions de Dieu. Et sur le mont Ebal, c'est les malédictions de Dieu si tu te détournes de la loi. Donc voilà, et pour c'est resté, pour les Samaritains et les Israélites qui étaient là, qui sont restés là, c'est resté le lieu où il fallait adorer. Il faut savoir qu'il y a eu un temple de bâti aussi sur le mont Garizim. Un temple peut-être pas aussi grand que celui de Jérusalem, mais il y a eu un temple dédié à l'Éternel qui a été bâti sur le mont Garizim. Les Samaritains respectent la Torah. La belle colombe. Les Samaritains respectent la Torah seulement, que les cinq livres, les cinq premiers livres de la Bible, alors que le reste des Judéens respectent la Torah, les prophètes et les écrits, donc le Tanar, toute la Bible que vous avez, enfin la Bible hébraïque que vous avez. Les Samaritains respectent les fêtes bibliques, les sept fêtes bibliques, et comme les Judéens. Et les Judéens, eux, respectent les sept fêtes bibliques, plus Hanouka et Pourim. Les Samaritains pensent que les 10 commandements sont sur le mont Garizim, enfin sont liés physiquement au mont Garizim, alors que les 10 commandements pour les Judéens, c'est les 10 commandements. Il n'y a aucun lieu. Voilà, je vous donne les différences parce que c'est important. Donc maintenant, on va retourner à notre Samaritaine. Tu as la photo des Samaritains, David? Voilà les Samaritains aujourd'hui, sur le mont Garizim, ils sont toujours là. Ils sont 818 en 2020. Donc on va dire qu'ils sont en voie de disparition. Non, parce qu'en 1919, ils n'étaient que 150. Savoir que l'État d'Israël les reconnaît comme juifs. D'ailleurs, quand vous regardez derrière moi, les Samaritains, à part leur petit chapeau, qui est plutôt musulman, on va dire, le reste, ils ont la Torah, des rouleaux de la Torah, et ils ont le talit, enfin celui qui lève le rouleau de la Torah, ils ont le talit. Il faut savoir que les Samaritains sont circoncis, à l'époque de Jésus aussi, parce qu'ils se considèrent comme les enfants. Ils se considèrent, et ils sont, pour certains, des descendants de Jacob. Donc voilà notre dame. On va y retourner. Donc les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Il faut savoir que même Jésus, quand il revenait de la Galilée et qu'il passait pour aller à Jérusalem, en Judée, il évitait. Les Juifs évitaient de passer par Samarie, c'est-à-dire de descendre tout droit. Ils passaient soit par la vallée du Jourdain, soit par le mont Carmel et soit la vallée de la Plaine. Un peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, Samarie, Sichem et tout ça, c'est la Cisjordanie. Donc, pour certains endroits, c'est interdit aux Juifs. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et là, je vous donne l'explication de pourquoi elle a dit notre père Jacob, si c'est une population déportée. Normalement, ils n'ont rien à voir avec Jacob. Sauf que non, là, elle parle de notre père Jacob. Donc, une partie de cette population avait des ancêtres israélites. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Pragmatique, la fille. Il faut savoir que la corvée d'eau, enfin pour ceux qui... ça existe encore dans certains pays africains, la corvée d'eau, c'est généralement les femmes qui le font. Et c'est quand même une corvée, quoi. C'est pas quelque chose... quel privilège on a de tourner le robinet et d'avoir l'eau chez nous. Donc elle avait tout de suite compris que si c'est pas tellement qu'elle aurait plus soif, c'est surtout qu'elle ne viendrait plus ici, quoi. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alors là, je vais aussi faire un petit bémol. La Samaritaine n'était pas une prostituée, ni une femme de mauvaise vie. Parce que je pense que Jésus peut-être ne l'aurait peut-être pas adressé la parole comme ça. On ne sait pas ce que sont devenus ces cinq premiers maris. Peut-être qu'elle a été 5 fois veuve. De toute façon, une chose qui est certaine, c'est que dans l'époque de Jésus, ce n'est pas la femme qui décidait de divorcer. C'était l'homme. Donc ce n'est pas comme maintenant, je te prends, je te jette, je te prends, je te jette. Non. Si cette femme avait eu 5 maris, 5 c'est beaucoup, et que, voilà, là Jésus parle de livres, il y a un récit dans un des livres dits apocryphes, mais qui était connu à l'époque des évangiles comme livre inspiré. Il le lisait, c'était le livre de Tobie. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez lu. Il y a une histoire où il y a une femme qui, à chaque fois à la veille de son mariage, il y a un démon qui le faisait mourir son mari. Pendant 7 fois, il y a tué, comme ça, elle a eu, c'est ce qu'on appelle les veuves noires, 7 maris qui ont été tués. Et cette femme n'osait plus sortir parce que tout le monde pensait que c'était elle qui tuait ses maris, alors que ce n'était pas du tout. C'est dit dans le livre que c'est un démon, mais humainement, ce n'est pas dit. Et elle n'osait plus sortir parce qu'elle était la risée de tout le monde. Et là, cette femme-là est sortie à midi. Donc peut-être qu'elle allait au puits pour ne pas se prendre de sales réflexions en disant que c'était elle qui avait tué ses 5 maris ou... Je sais pas, on pense que ça peut être une situation comme ça. Et le dernier mari, bah avec celui qui vit, t'es avec, c'est pas tu vis avec, t'es avec celui, l'homme avec qui tu es, n'est pas forcément son mari, ça peut être un oncle ou quelqu'un de sa famille, un frère à elle. Et c'est pas dit que c'était un lien conjugal. Celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Maintenant, vous comprenez bien pourquoi elle part là-dessus. Puisque tu es prophète, dis-moi pourquoi. Nous, on doit adorer sur cette montagne, donc le mont Garizim, et vous êtes à l'endroit où vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ne se sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, vient des Judéens. Et prends, toc, prends-toi ça dans les dents. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Quand on lit ça, on dit, bah, ça va. Hein. Jésus est venu comme un simple homme dans l'humilité. Alors que c'est, en fait, il touche du doigt le problème entre les Samaritains et les Juifs. Et il dit que le salut vient des Juifs. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est lui le salut, oui. Et que lui, il est de la tribu de Judas. Il est de la tribu de Judas. Et quand on regarde les bénédictions de Judas, il a dit que le sceptre, la royauté, est attaché à Judas et que ça restera jusqu'à ce que le Messie sortira de Judas. Si vous voulez le lire, c'est dans Genèse 49, au verset 8 à 10. Ça, c'est pour ceux qui veulent le lire chez eux. C'est dans les devoirs que je donne, là, à chaque fois. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, donc maintenant, là, à l'époque de Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Que dit Jésus, là? Il dit, vous adorez, vous sacrifiez au mont Garizim. Les Juifs adorent et sacrifient au mont Moria. C'est pas le lieu qui compte, c'est l'adoration en soi. Et il faut que ceux qui l'adorent, qui adorent Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient. Celui qu'on appelle le Christ. Mais quand il sera venu, il nous annoncera tout. Donc la femme, elle a percuté quand il lui a dit que le salut vient des Juifs. Elle a tout de suite fait le lien avec Genèse 49, puisqu'elle lisait la Torah, ils lisent la Torah, donc ils connaissaient bien la Torah. Genèse 49, c'est dans la Torah. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Vous vous souvenez de ma dernière prédication, où Jésus avait dit à la femme de la Cananéenne qu'il était venu qu'aux brebis perdues d'Israël. Et là, qu'est-ce qu'il fait? En plus, il interdisait à ses disciples de dire qu'il était le Messie. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il voit cette Samaritaine, et c'est la première fois, concrètement, que Jésus dit à quelqu'un qu'il est le Messie. Je le suis, moi qui te parle. Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés qu'il parlait avec une femme, parce que c'est vrai que c'était malséant de parler avec une femme au puits. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. La femme laissa donc sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ, et de sortir de la ville, etc. Et à la fin, on lit la prédication de Jésus. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent à lui, ils le prièrent de rester d'auprès d'eux. Il resta 2 jours. Il fut encore plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu de nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde et le Messie. » Est-ce que Jésus a eu son verre d'eau, au fait? Ça a blablaté hein, beaucoup, mais ils ont parlé de 700 ans de 700 ans de théologie, on va dire. Mais il n'a pas eu son verre d'eau. C'est triste, cette histoire, finalement. Mais en plus, quand les disciples lui ont apporté à manger, il leur a dit, ma nourriture est faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Donc en plus, il n'a même pas voulu manger. Alors je vais mettre ça en parallèle avec une autre femme. Ah, celle-là, je l'aime bien. C'est dans Genèse. Genèse 24. Vous la connaissez? Elle s'appelle Rivka. Ou Rebecca en français. Alors j'explique le contexte. Abraham devient vieux. Son fils Isaac, qui était toujours dans les jupons de sa mère, jusqu'à la mort de sa mère, donc Sarah, je schématise, hein, vous inquiétez pas, jusqu'à la mort de sa mère Sarah, il a tellement été dans les jupons de sa mère qu'à 40 ans, il n'était toujours pas marié, le fils. Hein. Donc Abraham, il s'inquiète un peu parce que c'est pas le tout d'avoir la promesse de dire tu seras une multitude de nations si son fils il reste célibataire, hein, c'est pas bien. Donc il demande à son serviteur, Eliezer, je crois qu'il s'appelait, d'aller dans le pays d'où il vient, le pays du côté de la Mésopotamie. Et il dit, tu vas là-bas, tu vas dans ma famille et tu me ramènes une femme pour mon fils. Pas de problème. Donc Genèse 24:10, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et se rendit en Mésopotamie, à la ville de Nahor. Il fit agenouiller les chameaux à l'extérieur de la ville, près d'un puits d'eau, au moment où le soir sortent celles qui vont puiser de l'eau. Puis il dit, « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, Fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche et agis avec bienveillance envers mon serviteur Abraham. Me voici placé près de la source d'eau et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie pour que je boive » et qu'il répondra « Bois et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux » soit celle que tu auras destinée à mon serviteur, à ton serviteur Isaac. Ainsi, je reconnaîtrai que tu agis avec bienveillance envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit la cruche sur l'épaule, Rivka, fils de Bethuel, et petite fille de Milka et de Nahor, le frère d'Abraham. C'était une très belle jeune fille. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le Seigneur courut à sa rencontre et dit, « Donne-moi à boire, je te prie, quelques gorgées d'eau de ta cruche. » Quelques gorgées d'eau, hein, c'est même pas un verre. Hein. Et elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'incliner sa cruche et de lui donner à boire. Elle n'a pas discuté, hein. Elle n'avait pas demandé qui es-tu, où est-ce que tu adores, qu'est-ce que tu fais. Quelqu'un d'âgé. Et quand elle lui achevait de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut pour puiser encore de l'eau au puits. Et elle puisa pour tous les chameaux. Alors ça, c'est un texte que vous lisez comme ça, en diagonale. Il est dit dans le texte qu'il est parti avec 10 chameaux. Vous savez combien ça boit un chameau? Ça boit 15 litres à la minute. 15 litres à la minute. Quand il a très soif, il peut aller jusqu'à 100 litres chacun. Généralement, c'est une cinquantaine de litres qu'il boit. Mais quand il boit, il boit. C'est l'animal qui boit le plus vite. Par contre, il peut rester des mois, presque, sans boire. Alors la pauvre petite Rivka, avec sa petite cruche, bon, la cruche, ça devait faire une quinzaine de litres, entre 10 et 15 litres, peut-être 20 litres. Rivka, il faut savoir que si Isaac avait 40 ans, Rivka, s'il a dit qu'elle était une belle jeune fille et qu'elle était vierge, elle avait moins de 18 ans. Parce qu'au-dessus de 18 ans, toutes les femmes étaient plus ou moins mariées par leur père. Contrairement à la Samaritaine, elle vient aux heures de pointe. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en décalage par rapport aux heures où les filles viennent puiser de l'eau au puits. Contrairement à la Samaritaine, quand on lui dit « donne-moi à boire », elle s'empresse de donner à boire. Et contrairement à la Samaritaine, non seulement elle s'empresse de donner à boire, mais elle s'engage de donner à boire à 10 chameaux. Ce qui est énorme. 15 litres. Donc imaginez qu'un chameau fait... Allez, s'ils boivent 50 litres. Parce que 100 litres, ça fait une tonne d'eau à puiser. Hein. Donc on va pas... Mais 50 litres, c'est 500 kilos d'eau à puiser dans sa cruche. Donc à l'ancienne, donc avec la ficelle et tout ça. Vous imaginez le boulot. Le gars, il a dû passer, avant de passer au chapitre suivant, ils ont dû attendre peut-être trois quarts d'heure. Et quand elle lui chemait, et appuisa pour tes chameaux, l'homme s'interrogeait en silence à son sujet. Il avait le temps. Hein. En la voyant puiser, t'as 45 minutes devant toi pour savoir si c'est bien elle. Pour savoir si l'Éternel faisait oui ou non réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or d'un poids d'un demi-sicle et deux brassées de poids de 6 cycles d'or pour ses poignets et dit « De qui es-tu la fille ? Déclare-le-moi, je te prie. » Y a-t-il pour nous dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, le fils de Milka a donné à Nahor. Elle ajouta, il y a chez nous de la paille et du fourrage pour passer la nuit. Et alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a cessé d'exercer sa bienveillance et sa fidélité envers mon Seigneur, et qui l'a guidé mes pas jusqu'à la maison des frères de mon Seigneur. Vous voyez le contraste? Deux femmes, une, je dirais, d'Israël, et une d'Éphraïm. Quelle est la leçon qu'on peut prendre pour nous? Parce qu'à la limite, tout ça, c'est bien joli, c'est des belles histoires. D'un côté, il y a une femme qui a le serviteur d'Abraham, qui était normalement aussi je crois que c'est celui qui devait hériter s'il n'y avait pas eu Isaac. C'était à lui qu'Abraham avait confié, éventuellement avait pensé, s'il était resté sans enfant, de lui donner tous ses biens. Et de l'autre côté, il y a une femme qui se trouve face à face avec le Messie. Deux attitudes complètement différentes. D'un côté, il y en a une qui s'empresse, mais qui va au-delà, parce qu'il n'a jamais demandé à boire pour ses chameaux. Hein. Et d'autre côté, une qui essaye de comprendre avant d'agir. Enfin, avant d'agir ou de ne pas agir, d'ailleurs. Elle est là, elle est dans la théorie, elle est dans le... C'est quoi la différence entre nous? Mais je ne suis pas non plus sévère vis-à-vis de la Samaritaine. C'est une femme qui a cru au Messie. Elle a cru, elle a eu la foi, mais elle n'a pas eu les œuvres. Enfin, les œuvres que Dieu, que le Messie lui demandait, donne-moi à boire. Alors que l'autre, elle a eu toutes les œuvres, mais même plus que ça, elle a vraiment été au-delà de la demande. Donc pour nous, c'est un encouragement que je fais pour nous. Dans quel état d'esprit nous servons le Seigneur ? Dans quel état d'esprit nous le servons? Est-ce que des fois, et moi je le confesse, hein, je suis souvent la Samaritaine, hein, c'est le minimum vital, le minimum légal, mais pas au-delà, quoi. Ou est-ce que c'est en abondance? Alors bien sûr, il ne faut pas faire les choses par soi-même, hein. Il faut faire les œuvres préparées d'avance, mais des fois, je ne suis pas sûr que si le Seigneur m'avait demandé « Est-ce que tu puises de l'eau pour 10 chameaux ?» Ça m'aurait fait plaisir. Je l'aurais peut-être fait parce que le Seigneur me l'a demandé, mais ça ne m'aurait pas spécialement fait plaisir. Donc n'oubliez pas que la foi, nous croyons en Jésus, nous croyons au Messie, mais que la foi va avec les œuvres. Quand je dis les œuvres, ce n'est pas les bonnes œuvres ou les trucs que vous préparez d'avance. Quand je dis les œuvres, c'est vraiment ce que Dieu veut pour vous. Là, on voit que Rebecca est partie directement, est arrivée au bon moment, parce qu'il n'en a pas interrogé une dizaine. Hein. Il ne s'est pas dit dans le récit qu'il a commencé avec une fille, que la fille lui a donné à boire, et puis elle est repartie, donc ce n'est pas elle. Et puis la deuxième, elle est arrivée, elle lui a donné à boire, elle est repartie, donc c'est pas elle. Et puis arrive Rivka après, non, c'est la première. Au bon moment, au bon timing. La première qui rencontre, c'est la bonne. Donc les œuvres préparées d'avance, c'est ça, c'est être dans le bon timing. Au bon endroit. Il y en a qui disent qu'ils sont arrivés au mauvais endroit, au mauvais instant. Ben nous, qui avons la foi, nous devons être au bon endroit, au bon instant. Et quand Dieu demande quelque chose, ou quand vous pensez que Dieu vous demande quelque chose, n'essayez pas de remonter dans la Bible, dans l'histoire et tout ça, pour trouver un argument pour ne pas le faire. Vous savez que si Abraham avait été comme la Samaritaine, il avait plein d'arguments pour ne pas sacrifier son fils Isaac. Il savait que le Dieu d'Israël était contre les sacrifices humains. Puis tu as le même Dieu là, qui est contre les sacrifices humains, qui lui dit de sacrifier son fils. Oula, c'est pas scripturaire ça, attends, qu'est-ce que dit la Bible? Bon, il n'avait pas de Bible. Qu'est-ce qu'il a fait? Obéi sans comprendre. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que tu veux faire avec ça, je ne sais pas ce que tu veux faire avec moi, et ça vous est jamais arrivé cette situation dans votre vie? Vous vous posez la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec moi là? Où tu veux en venir? Je ne comprends pas, mais j'obéis. S'il fallait obéir à chaque fois que vous comprenez, beaucoup de chrétiens le font, hein, et moi commencé, hein. J'aime bien comprendre ce que je fais, mais ce n'est pas la vie chrétienne que Dieu, ou la marche, que Dieu nous fait suivre toujours. Alors souvent, c'est comme ça, mais des fois, ce n'est pas comme ça. Pour revenir aussi à Éphraïm, les Samaritains, vous avez vu que les Samaritains craignaient Dieu. Enfin, à l'époque où ils sont arrivés sur le pays, pas à l'époque de Jésus, parce qu'à l'époque de Jésus, ils étaient déjà bien dans le judaïsme, c'est-à-dire ils ont été enseignés pendant 700 ans dans la loi de Moïse, donc ils étaient moins idolâtres qu'à l'époque où ils sont arrivés. Mais à l'époque où ils sont arrivés, ils craignaient l'Éternel, c'est bien de craindre l'Éternel, mais ils avaient leurs idoles. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à l'histoire de l'Église, où l'Église a la foi et se vante d'avoir la foi en Jésus. Ils craignaient l'Éternel. Quelque part, si on connaît que Jésus est le Messie, on craint l'Éternel, puisque Jésus craignait. Et d'un côté, on a gardé nos idoles. Il y en a qui désadoraient les statues. Et honnêtement, quand vous voyez, moi j'ai fait ça pendant le confinement, j'étais horrifié de savoir la source de certaines doctrines que nous avons ici. Par exemple, le culte le dimanche, vous savez d'où ça vient, je vais vous le dire. C'est Constantin qui l'a établi. Constantin qui, soi-disant, s'est converti au christianisme. Tout ça parce qu'il a vu une croix de feu dans le ciel au moment où il était au plus mal avec son rival dans une bataille. Il a dit Seigneur, il a demandé un signe pour savoir s'il était le vainqueur de cette. Parce que en fait, c'était le rôle, c'était l'Empire romain. Hein. Il a demandé un signe et il a vu une croix de feu, donc il a pensé que c'était Jésus-Christ. Mais en fait, dans sa religion réelle, c'était le dieu du soleil. Mithra, il adorait Mithra, qui était un dieu perse. Et il a, en fait, le dieu du soleil était adoré le dimanche. Tous les dimanches matin, on adorait le soleil. C'est pour ça qu'en français, ça ne se dit pas, puisque c'est dimanche. Mais en anglais, c'est quoi le nom de dimanche? Sunday, le jour du soleil. Quand on rend un culte le dimanche, quand l'Église a commencé à rendre un culte le dimanche, c'était un pour réagir contre le Shabbat, parce que le Shabbat était juif et il ne voulait plus rien entendre du judaïsme de l'époque. Et deux, c'était pour adorer le soleil. Je ne vous parlerai pas des autres fêtes. Il y a sept fêtes de l'Éternel, Pessah, qui est la fête juive, qui est le sacrifice de l'agneau. Tout de suite, on s'est dit, on va faire autrement, on va faire 7 jours avant, pour ne pas être avec les Juifs. On va, Shavuot, ça a été abandonné, c'était à Pentecôte. Fête des tabernacles, on n'en parle plus. Je ne vous parle pas du Yom Kippour et tout ça. Et qu'est-ce qu'on a mis à la place? On a mis Noël, qui est aussi lié au soleil, quelque part, puisque c'est à partir du jour de Noël que les jours rallongent. Ça s'appelait les Mercuriales. Non, les Saturnales. Les Saturnales, qui est une fête païenne. Donc, l'Église a fait comme les Éphraïm, d'ailleurs on est Éphraïm, a fait comme Éphraïm. On a craint l'Éternel, ça on ne peut pas nous le retirer. On craignait l'Éternel, mais on s'est mis aussi les idoles de toutes nos nations. Alors je ne vous parle pas dans d'autres nations, dans d'autres pays, ce qui peut se passer. Mais on voit que le catholicisme, ce n'est pas un jugement contre le catholicisme, rien du tout. Parce que le protestantisme n'a pas fait mieux. Et que l'Église orthodoxe n'a pas fait mieux, c'est universel dans l'Église. On a mis, pour la Toussaint, je ne vous en parle pas non plus, on a mis des choses idolâtres et on les a rangées à la sauce évangélique pour que ça soit à peu près cohérent, quoi. Mais la source est idolâtre. C'est là-dessus que je... Moi, personnellement, je me suis fait un retour sur moi-même en disant « Attends, on revient de loin, et est-ce que vraiment on doit rester sur ces bases-là ou est-ce qu'on doit repartir sur d'autres bases ?» Voilà ce que je voulais dire. Salut, soyez zélés pour le Seigneur. Soyez zélés et revenez à la source. Amen. On peut se lever alors. Oui, Seigneur éternel, nous voulons t'adorer, Seigneur. Oui, nous voulons non pas être comme cette femme samaritaine à discuter, à parler théologie, Seigneur, mais nous voulons être comme Rivka, Seigneur, qui s'est empressée de donner à boire. C'est vrai que tu as dit à la samaritaine, si tu savais qui te demandait cette eau, c'est toi-même qui demanderais à boire. Et il dit que cette eau, c'est une source qui peut jaillir jusque dans la vie éternelle. Et c'est vrai que des deux, c'est peut-être Rivka qui avait besoin de cette source qui jaillit pour abreuver tous les chameaux. Elle a été une source pour faire boire 10 chameaux et le serviteur, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner cette source à l'intérieur de notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions dispenser et abreuver, Seigneur, tous ceux qui sont autour de nous. Tous ceux que tu nous montres, Seigneur, tous ceux qui ont soif de vérité, qui ont soif de justice. Tous ceux qui sont fatigués et chargés, Seigneur. Que nous soyons une source abondante. Certains ont des petites cruches, d'autres ont des tasses. Chacun a la mesure de foi qui lui est départie, mais que chacun, avec les moyens qu'il a, donne avec abondance. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, pour ces exemples que tu donnes dans la Bible, Seigneur. Merci parce que c'est vrai que nous lisons mal, nous ne comprenons pas tout, Seigneur, mais que c'est toi qui nous enseignes, Seigneur. C'est toi qui nous rétablis sur les bonnes bases, Seigneur. C'est toi qui nous rétablis sur les bases de ta parole, Seigneur. Merci parce que ta parole est la vérité, Seigneur. Et c'est cette vérité qui nous sanctifie et qui nous libère. Combien j'aime ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui nous dit quoi faire, minute après minute et jour après jour. Merci parce que souvent nous avons des questionnements, mais qu'est-ce que tu veux faire avec nous, Seigneur? Mais là, où veux-tu en venir? Mais toi, tu es fidèle. Et tu sais que tout ce qui nous arrive, tout ce qui intervient dans notre vie, Seigneur, ce n'est pas un hasard. C'est toi qui es aux manœuvres. Comprenons pas tout, Seigneur, mais nous voulons obéir et nous soumettre. Merci, Seigneur, de nous donner un cœur comme Rivka, Seigneur. Un cœur zélé pour toi. Un cœur rempli d'amour et d'abondance, Seigneur, pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui veulent emprunter de nous, pour ceux qui nous demandent à boire, pour ceux qui nous demandent à manger, Seigneur. Nous voulons vraiment te bénir, Seigneur, et te rendre grâce dans le nom de Jésus. Amen. Assemblée générale.